Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, le cinéma. Ce soir, Emily Barnett et Antoine Guillot se font face à notre affiche Café Society de Woody Allen et L'Ange blessé d'Emir Baygazine. Nous parlerons aussi plus rapidement de Red Amnesia de Wong Xiao-shui et Sisters de Jason Moore. Vers 21h20, Émilie Chaudet nous présentera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir. Des invitations pour le spectacle Chapitre de la Chute, saga des Lehman Brothers de Stefano Massini. Mise en scène d'Arnaud Meunier. Des places à gagner pour samedi 14 mai à 19h, c'est au Théâtre du Rond-Point à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec le chorégraphe et directeur du Musée de la Danse, Boris Charmatz, qui est toute cette semaine l'invité de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute cinéma exceptionnellement un mercredi soir, mais parce que nous l'ouvrons comme le festival vient d'ouvrir, avec Café Society de Woody Allen. Nous allons y suivre Bobby Dorfman, jeune juif new-yorkais qui débarque à Hollywood en bon Rastignac avec un sérieux atout dans sa manche puisque son oncle est impresario. Une rencontre amoureuse va changer le cours de la vie de Bobby.
I'm expecting a call from Ginger Rogers. She's not happy with her representation, so who knows?
Phil, it's Rose.
Rose?
Your sister. My son. He's coming to Hollywood. The man eats with Fred Astaire and Gary Cooper.
I'm impressed.
Hello? Come in. Sit. Christ, man, it's all about ego. This whole town runs on ego.
Yeah, I'm Bobby.
Bonnie, come in here, can you? Bonnie, this is my nephew, Bobby. How is a two-time Academy Award winner?
Wow, congratulations.
Hey, thank you. You've never heard of me. I'm a writer.
Welcome to Hollywood.
Hey, pal, you bored already?
I'm kind of half bored, half fascinated. My brother Ben owns a nightclub. He's asked me to help him run it.
When will you know?
Well, we have to see if the owner's willing to sell. We're trying to persuade him.
You ask politely, people listen.
Are there more beautiful girls in Hollywood or New York?
Why, is that how you'll decide where you'll live?
You're very beautiful.
I'm seeing someone.
Oh, unrequited love kills more people in any year than tuberculosis.
Don't you want to try me?
Listen, I'm so lonely, I would have been happy just to talk, but now I'm even too tired for that. You like jazz music?
At 2 in the morning.
At any time in the morning.
Love is not rational. You fall in love. You lose control.
Whoa. Is that good or bad?
No answer is also an answer.
Socrates said, the unexamined life is not worth living. But the examined one is no bargain.
Yes? Life is a comedy written by a sadistic comedy writer.
Café Society, sorti aujourd'hui en salle, en même temps qu'il vient d'ouvrir le Festival de Cannes. Je commence avec le regard d'Emily Barnett sur ce nouveau film de Woody Allen.
J'éprouve des sentiments partagés sur ce Woody Allen. Je dirais que la première partie est assez ébouriffante, assez éblouissante. On est dans les années 30, on suit le parcours, vous l'avez rappelé Arnaud, de ce jeune homme issu d'une famille juive du Bronx qui fait ses premiers pas à Hollywood sous la protection, il faut le dire, d'un oncle très bienveillant qui est agent de star, qui est joué par Steve Carell, merveilleux absolument, champion de la comédie américaine à l'âge, je dois dire, qui donne une prestation folle de cet agent, à la fois mégalo, affreusement snob et en même temps très 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 attachant puisque c'est aussi un homme amoureux. Et puis on va suivre petit à petit ce héros qui sature assez vite de ce milieu mondain hollywoodien des années 30 et qui va migrer à nouveau vers New York et faire l'acquisition d'un certain nombre de bars, voilà, bars, ce qu'on appelle les cafés society, les hauts lieux de rencontre mondaine du New York des années 30. Donc voilà, alors il faut dire aussi que parallèlement à cette trajectoire sociale, mondaine, amicale, le héros va connaître un certain nombre de succès et aussi de déboires amoureux autour de deux femmes, et notamment une qui va lui briser le cœur.
Voilà. Tu peux nous raconter ou
absolument
pas,
Émilie, pas, je n'ai que dit que un
les
tiers
trois quarts
du film.
D'accord.
Un tiers du
Allez,
film.
On s'arrête là pour le récit.
Mais ce pourquoi j'insiste et je souligne ces différentes péripéties, c'est parce que moi, au fond, ce qui m'a le plus intéressé, c'est tout ce qui a trait au trio amoureux du film, qui est composé par, ne vous inquiétez pas, je n'en dirai pas trop, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart et l'amant de celle-ci. Et en fait, il va vraiment se jouer quelque chose d'extrêmement à la fois perturbant et ravissant entre ces trois personnages et moi je dirais que voilà là où je retrouve le Woody Allen que j'aime, c'est dans voilà ce marivaudage absolu, cette façon de dépeindre à la fois les peines de cœur, le sentiment amoureux. Là je retrouve le Woody Allen de Manhattan, d'Anna et ses sœurs, et je suis absolument conquise. La seconde partie qui se passe donc plutôt à New York, qui porte plutôt sur, on va dire, l'ascension, l'ambition sociale du personnage, m'intéresse moins. Et là, je pense que Woody Allen, qui a su vraiment nous époustoufler avec un film, par exemple, récemment, il y a une dizaine d'années, comme Match Point, où il arrive très très bien à manœuvrer cette double question qu'est celle de la rencontre amoureuse et aussi de l'ambition sociale féroce. Je trouve que là, l'ascension de J.C. Eisenberg, on n'y croit pas du tout. Moi, je trouve que c'est un héros, au fond, assez fallot. Et vraiment, on ne devient pas le roi de la nuit new-yorkaise dans les années 30, je crois, par un coup de claquement de doigts, d'un claquement de doigts. Je crois que ça implique un certain moteur de vie, une certaine nécessité, et qui est là et pas du tout développée par Woody Allen. Et donc, ça fait de moi un film un peu bancal, un peu inégal et pas complètement accompli. Voilà. Dans son scénario.
Antoine Guillot.
Partager, c'est le même mot. J'allais dire exactement la même chose. C'est un film où effectivement on retrouve des tas de bouts de Woody Allen, c'est-à-dire ce genre d'intrigue dont que vous venez de décrire avec beaucoup de précaution. Bravo, j'aurais pas fait mieux. Est un élément qu'on peut identifier effectivement de films précédents, mais comme on peut identifier la voix off qui se veut très littéraire et qui était celle de Manhattan et de tant d'autres, comme on peut identifier cette manière de faire satire d'Hollywood. Il me semble que c'était dans Annie Hall qu'à un moment le personnage de Tony Roberts installé en Californie, les invités, c'était l'horreur absolue, il fallait vite retourner à New York. Donc on a plein d'éléments qui reviennent comme ça. Jesse Eisenberg étant l'énième avatar de Woody Allen qui, s'il avait son âge, aurait joué le rôle à l'époque. Donc on retrouve toutes ces questions-là avec en même temps, pendant tout le film, je me suis dit, mais pourquoi ça m'emporte pas? Pourquoi j'ai ce sentiment de platitude? Alors c'est un film sur la superficialité, c'est-à-dire qu'il fait la satire de cette usine aux apparences qu'est Hollywood, mais finalement quand on se retrouve à New York, il se retrouve dans un milieu qui est tout aussi superficiel, et le film semble aussi superficiel que ça. Il y a cette photographie très belle de Vittorio Storaro, qui était le directeur de la photographie d'Apocalypse Now, mais aussi de Coup de cœur de Coppola, des grands films de Bertolucci, 1900 et autres. Donc il fait effectivement un très beau travail de reconstitution, mais qui sonne assez faux. C'est-à-dire qu'on est dans une reconstitution papier glacé à la fois de des fêtes hollywoodiennes de l'époque ou de la grande société qui faisait la fête de l'autre côté à New York. Il y a des figurants partout, il y a du décor, il y a tout ça. Mais finalement, ça serait un film français. On aurait rapidement la critique. Ah oui, mais c'est vraiment la reconstitution de studio, les figurants, etc. Il y a un côté, il n'y a pas de vie dedans. Quand on voit que c'est Vittorio Storaro et quand on voit tout ce vers quoi ça lorgne, parce qu'il y a quand même des éléments qui font beaucoup avancer. Il était une fois en Amérique, on ne peut pas ne pas penser à Cotton Club, sur l'évocation justement de ces lieux où se mêlent les gangsters, riches, musiciens de jazz, etc. À chaque fois, il manque le souffle lyrique qu'il y avait dans ces œuvres-là. Alors Woody Allen, évidemment, n'est ni Coppola, ni Sergio Leone, mais on voudrait être un peu plus transporté dans l'époque, comme on l'avait été d'autres fois quand Woody Allen fait Zelig. On est beaucoup plus, on a ce sentiment, même avec toute l'artificialité, les trucages de Maître Zelig avec des personnages connus, on a ce sentiment d'une époque. Et là, le sentiment général que j'ai, c'est que Woody Allen fait du Woody Allen avec ses recettes. Les personnages, on a l'impression, moi j'avais l'impression que Jesse Eisenberg et Kirsten Stewart jouaient à être un film de Woody Allen, c'est-à-dire qu'on prend la manière de parler, les poses, etc., sans que tout le monde n'y croit vraiment, comme s'il n'y avait pas d'urgence, de nécessité. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un film très personnel pour Woody Allen. C'est-à-dire qu'il retourne effectivement à l'évocation de la famille juive, à la question de l'antisémitisme qu'il n'avait pas abordé depuis longtemps. L'air de rien sur cette femme qui vient du Middle East américain et qui raconte que quand elle était petite, on lui interdisait de parler aux juifs et qui continue à avoir des préjugés, même qui rend le juif exotique et sexy, mais avec quand même ce vieux fond antisémite de l'élite blanche américaine, sauf que on a l'impression de quelque chose de quasi scolaire, c'est-à-dire que Woody Allen fait une typologie du juif new-yorkais. Alors il y a la famille un peu religieuse, il y a la famille plutôt communiste, il y a le gangster, alors il y a toutes les manières d'être.
C'est un film choral aussi.
Il y a l'intellectuel, etc. Mais sans que jamais ça prenne vraiment au-delà de d'une certaine facilité, je voudrais pas dire fainéantise, d'écriture en tout cas.
Mais peut-être que c'est comment dire, un risque que prend Woody Allen. J'ai l'impression, en tout cas, à chaque fois qu'il s'empare de certaines époques, donc ce que j'appelle la veine de ses films d'époque, le dernier en date étant Midnight in Paris, où là c'était le Paris des années 20, le Paris littéraire des années 20.
Le dernier en date, c'est
le
précédent dans le titre, mais qui était aussi un film d'époque.
Non, parce qu'il y a L'homme irrationnel.
Avec La Voyante, là.
Blue Jasmine.
Alors, c'était L'homme irrationnel, le précédent. Je suis d'avant.
L'homme irrationnel, Blue Jasmine, je suis aux anges, parce que.
C'est ça.
Je pense que dans les chroniques ultra contemporaines,
il y a une époque ça marchait. Accord des accords, il donnait complètement le sentiment d'une époque. Enfin, il y avait malgré tout quelque chose qui était au-delà de la fabrication. Je n'arrive pas à ne pas voir la fabrication.
Mais je pense quand même qu'il y a toujours un risque un peu parodique chez Woody Allen dès lors qu'il il encapsule une époque. Le risque de la carte postale, Johnny. Il cède vraiment à cette facilité presque systématiquement. C'est très étonnant qu'il n'ait pas le désir de creuser un peu plus au-delà, de gratter au-delà un peu du vernis comme ça, film d'époque.
On n'échappe pas à la promenade en calèche dans Central Park à New York, quoi.
C'est très étonnant de pas du tout contourner les poncifs, quoi.
Moi j'ai un avis tout différent du vôtre.
Voilà.
Comme pour relancer un petit peu. Non, mais c'est vrai, parce que moi j'ai eu le sentiment au contraire, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Woody Allen qui prenait des risques, justement, qui avait une certaine ampleur dans l'écriture, qui une ampleur de temps, de narration, ce qui fait qu'on a l'impression que ce film est long, non pas dans mon cas parce que je m'y serais ennuyé, mais au contraire parce qu'il embrasse beaucoup de choses, qu'il y a ces allers-retours entre Los Angeles et New York qui pour moi fonctionnent extrêmement bien, que je pense qu'il a pris le temps d'écrire et de bien écrire, et je crois que vraiment la question de la reconstitution, c'est un des sujets qu'il traite, justement, là, en la rendant visible. Vous parlez de films sur la superficialité, sur les apparences, sur le faux, enfin il baigne évidemment là-dedans. Et en fait, si Bobby, c'est le nom du personnage joué par Jesse Eisenberg, réussit finalement dans les clubs new-yorkais, c'est parce qu'il joue bien son rôle et qu'ils sont là, chacun a joué un rôle, comme une secrétaire va jouer le rôle de la secrétaire, le patron. Enfin, on est vraiment dans une sorte de comédie de masque, mais qui pour moi se donne comme telle. En fait, c'est comme ça que je l'ai reçu, c'est pour ça que moi j'ai pris du plaisir. Et autre performance, si je puis dire, c'est la première fois que je supporte Kristen Stewart à l'écran, puisque dans ses films, pour le coup, contemporains, elle m'agace absolument avec tous ces tics de jeu faussement naturaliste, et que là, dans le carcan alénien et film d'époque, j'ai trouvé que vraiment elle avait une subtilité de jeu à laquelle je ne m'attendais pas du tout de sa part. C'est comme ça. C'était dans les films précédents, j'étais vraiment très gêné parce qu'elle en fait vraiment des tonnes. Et là, j'ai trouvé qu'elle avait une sensibilité, une fragilité qui m'a vraiment extrêmement surpris. Jesse Eisenberg, bon, c'est pas mon acteur préféré, mais je trouve qu'il fait quand même tout à fait le job. Et moi, j'étais très, 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 très heureux d'une chose très simple, c'est qu'on entend Woody Allen, puisque c'est lui qui assure la narration du film, et que rien que le fait d'entendre Woody Allen, parce qu'il me manque, et il manque à beaucoup de gens à l'écran, de l'entendre déjà raconter d'être le narrateur, ça m'a donné vraiment beaucoup de plaisir. Donc vraiment, j'ai pas reçu le film de la même façon que vous.
Mais vous l'avez trouvé vraiment bien écrite, cette voix off. Moi, j'ai l'impression qu'en permanence, elle décrit ce qu'on voit, elle m'emporte jamais. Enfin,
elle est elle aussi à plat, dans une distance que moi je trouve ironique.
Vous avez une lecture méta du film qui, effectivement, où vous pouvez retourner tous les défauts que je peux y trouver en qualité. Donc, c'est peut-être le cas.
Vous m'avez fait ça quelquefois, j'ai adhéré.
J'aime beaucoup cette perversité rhétorique. Mais je suis à ce moment-là assez prêt à y croire, mais malgré tout, ça ne me convainc pas, parce que, y compris les moments qui ne devraient pas être superficiels, me semblent l'être. C'est-à-dire les scènes de famille sont des caricatures des scènes de famille de Woody Allen. Alors peut-être que lui-même est dans cette distance et disant,
regardez, il a 80 ans,
la superficialité de ce que j'ai fait. Mais je suis assez d'accord avec vous sur Kirsten Stewart. C'est-à-dire, je trouve son personnage très intéressant, y compris sur son côté un peu falot. C'est-à-dire qu'on peut se demander ce que projette le personnage de Jesse Eisenberg sur elle pour se faire un tel film.
Absolument,
finalement,
elle est juste absolument sublime. Avec elle.
Bah, pas du tout. Donc,
la question. Il y a une normalité sexy de l'époque. Enfin, il y a quelque chose là-dessus, mais elle-même ne transpire pas quand on la compare à l'autre personnage féminin qui rentrera dans sa vie.
Il y a quand même
une différence de mesure dans le glamour qui est quand même qui ne fait pas débat, il me semble. Mais c'est vrai que le centre, le creux de cette histoire, au-delà de la satire, de la superficialité, etc., et de cette façon de dire que les plus belles histoires d'amour sont peut-être celles qu'on n'a jamais eues, c'est une idée très belle. J'aurais aimé avoir plus ce sentiment à la fois de trouble, d'amertume et d'émotion que j'aurais dû ressentir et que je vois à l'état de projet, mais pas à l'état d'achèvement.
Enfin, je précise que pour moi, c'est loin d'être le meilleur Woody Allen, mais je trouve que ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait un film où j'avais trouvé autant de matière, pour ma part. Dernier mot, Emily Barnett.
Non, mais pour le coup, les acteurs, moi, Stewart, je la trouve fabuleuse, mais depuis Twilight, donc là, pour moi, c'est d'un film à film, elle est toujours merveilleuse. Même loin des blockbusters, là, on va la voir chez Assayas, à Cannes.
On l'a déjà vu. Maria, c'était épouvantable.
De nouveau. Pour moi, c'est une brune opaque, illisible et qui me semble infiniment plus fascinante à regarder qu'une Blake Lively blonde pulpeuse comme on en a vu des centaines. Dans des soap opéras. Donc ça, c'est pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est Eisenberg, parce que vous dites c'est le énième avatar Woody Allenien. Moi, je pense que c'est le premier qui s'impose d'une manière aussi éclatante en héritier de Woody Allen, pas seulement parce qu'il lui ressemble un peu physiquement, qu'il est issu d'une famille juive, qu'il partage ce débit, cet humour, mais aussi parce que lui-même est auteur. Il a écrit un recueil il y a quelques mois qui est sorti aux États-Unis.
Il a écrit des pièces de théâtre aussi.
Voilà, qui s'appelle, je crois, La Dorade me donne le hockey. Donc là aussi, c'est une suite de sketchs comme ça, d'humour un peu à la fois potache et cynique, exactement comme Woody Allen l'a fait en début de carrière. Donc on peut vraiment imaginer Eisenberg
passage de relais,
ouais, voilà, de Woody Allen, plus peut-être que les précédents, plus que Scarlett Johansson qui voilà,
c'est
qui
difficile,
est aussi
oui.
une sorte de muse, sinon de muse d'héritière. Donc voilà, pour le coup, les acteurs, moi, c'est vraiment un aspect du film qui m'a convaincu.
Bon, ouais. Eh ben écoutez, nous verrons quelle carrière ce film aura sur nos écrans. Il vient de sortir aujourd'hui, il ouvre le Festival de Cannes, Café Society de Woody Allen. Bon, alors avec des avis partagés,
le film est tout à fait plaisant. Bon, et puis il y a beaucoup de jazz, donc je suis ravi. D'ailleurs, il y a des titres qui donnent des indices. Hein, quand la première fois qu'il rencontre Kirsten Stewart, on entend The Lady is the Tramp.
Ouais, moi c'est le jazz que j'aime.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de L'Ange blessé d'Emir Baygazin. Avant cela, nous retrouverons l'invité de La Dispute, le chorégraphe et directeur du Musée de la Danse, Boris Charmatz. Nous évoquerons aussi Sisters de Jason Moore et Red Amnesia de Wang Xiaoshuai. La revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute lutte contre l'amnésie avec Émilie Chaudet qui, comme l'an dernier, va assurer cette séquence durant la cure cannoise d'Antoine Guillot. « Bonsoir chère Émilie.
Bonsoir Arnaud et bonsoir à tous. Alors d'abord un constat personnel, j'observe chaque année une attitude particulière chez mes confrères qui s'apprêtent à partir à Cannes. C'est soit une joie très contenue mais beaucoup trop contenue en fait pour être honnête et que j'attribue souvent, peut-être pour me rassurer, à une forme de snobisme, soit pour les plus habitués d'entre eux, une déception et une lassitude grandissante au fil des années, celle de voir un festival qui perd de sa superbe. Parmi ces habitués, il y a l'acteur Gérard Depardieu qui confie dans une interview accordée au lecteur du Parisien qu'il ne peut plus aller au Festival de Cannes depuis le départ l'année dernière de son ex-président Gilles Jacob. Depuis qu'il y a Thierry Frémaux et Pierre Lescure à la tête du festival, dit-il, ce sont les télés qui règnent. C'est vrai que Cannes, bon, je veux pas faire le vieux con, mais ça n'a plus rien à voir avec le cinéma. Et même si on n'est pas obligé d'être tout à fait d'accord avec Gérard Depardieu, la grande inquiétude cannoise de cette année, si l'on en croit la presse, tourne autour de ce grand pouvoir grandissant financier de la télé. Tout d'abord celui du groupe Canal+, dont le nom a été pendant 20 ans étroitement associé à celui du Festival de Cannes. Eh bien cette année, la chaîne va réduire notablement sa couverture médiatique de l'événement, comme on l'apprend dans un article de Romain Blondeau dans Les Inrocks, intitulé « Cinéma français, le grand flip ». Pas de grande édition quotidienne en direct, moins d'espace dédié à la chaîne sur la croisette en général. Un désengagement d'autant plus surprenant de la part du patron de Canal+, Vincent Bolloré, note le journaliste des Inrocks, que la chaîne venait, je cite, de prolonger son partenariat avec le festival pour les 5 années à venir, au terme d'une longue bataille avec France Télévisions. Ce changement radical de politique relève évidemment d'une question de coût. Cannes, c'est un devis moyen de 6 millions d'euros pour la chaîne, peut-on lire encore dans cet article des Inrocks, mais pas seulement. Romain Blondeau y pointe une stratégie globale, dit-il, ici celle de Vincent Bolloré, en matière de cinéma. Stratégie qu'Aurélien Ferenczi dans Télérama attribue aussi au groupe France Télévisions. Le journaliste rappelle en effet qu'en février dernier, une tribune publiée dans la presse signée de plusieurs cinéastes pressait la présidente Delphine Ernotte dénoncer sa ligne politique en matière de cinéma, ligne jugée étrangement absente de ses discours. Une inquiétude de la profession que l'article de Télérama intitulé « Le cinéma privé de télé ?» questionne et analyse en chiffres, rapport du CNC à l'appui. On y apprend qu'en 2015, plus d'un tiers des investissements dans le cinéma français provenait de la télévision et près de 2/3 des 300 films produits en 2015 ont reçu de l'argent des chaînes. Alors le journaliste pose la question, où est le problème en fait ? Gérard Depardieu, toujours lui, a un début de réponse. Lui qui a accepté de jouer gratuitement dans le sublime The End de Guillaume Niclou, sorti directement à la télévision en vidéo à la demande, il explique toujours aux lecteurs du Parisien qu'il faut constamment s'adapter aux exigences des télévisions et des distributeurs. Il raconte aussi qu'il a dû lui-même téléphoner au patron de Canal+, pour Fanny Ardant, pour qu'elle puisse obtenir l'argent de son prochain film, Le Divan de Staline. Donc le problème, plus que le financement en lui-même, c'est cette volonté de financement de la part des grands groupe de télévision, de plus en plus fragile. Et même si la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, a déclaré veiller à ce que Canal+ continue à financer le cinéma, le journaliste de Télérama rappelle que Vincent Bolloré s'y tient pour le moment, mais a aussi récemment menacé de fermer Canal+, qui n'arrive pas à se relever, notamment face à la concurrence de la chaîne Netflix. C'était à la dernière assemblée de Vivendi en avril dernier. Aurélien Ferenczi, qui finit par imaginer ce qu'il appelle un scénario catastrophe, ce serait qu'un jour, écrit-il, on touche à ses obligations dont la logique économique a diminué et qui ne tient que par la volonté politique. En matière de scénario catastrophe, il y a un homme politique qui en connaît un rayon. Un petit rayon, en tout cas. On quitte un moment Cannes et Canal et on part à Hanoï sur France 2. Lucas Duvernay-Coppola nous apprend dans ce film que Nicolas Sarkozy s'est essayé à l'écriture de scénario, à la coécriture du moins. C'était au début des années 2000. L'œuvre en question, intitulée Leclerc, raconte l'histoire d'un couple venu à Hanoï dans l'espoir d'adopter un enfant et de leur rencontre avec une vieille femme vietnamienne qui leur narre son idylle passée avec un officier français pendant la guerre d'Indochine. Alors Jacques Kirchner, le producteur de ce téléfilm interrogé pour les besoins de l'article, explique « Quand je disais que Sarkozy était co-scénariste, les portes se fermaient. À l'époque, son nom était Tricard. » Comme quoi même les hommes politiques doivent affronter la volonté politique des chaînes de télévision. Le téléfilm a finalement été diffusé le 14 juillet 2003, à un moment où le futur président de la République était déjà loin du cinéma, puisqu'en charge du ministère de l'Intérieur. Bilan de la courte expérience, selon Lucas Duvernay-Coppola, le résultat n'est pas bouleversant et les procédés maladroits. Dommage, peut-être qu'au lieu de poursuivre sa trajectoire politique, une voie de scénariste aurait pu s'ouvrir à lui, surtout que le Festival de Cannes en cache des scénaristes, ceux par exemple qui écrivent les discours des acteurs et cinéastes primés. Lisa Vignoli leur donne un nom et une voix dans M, le magazine du Monde. On y apprend que l'actrice Bérénice Bejo avait préparé son discours d'ouverture avec Kian Kojandi de la série Bref, que Lambert Wilson, le maître de cérémonie de la 68e cérémonie, a travaillé avec Thomas Bilguin, le co-scénariste de Jacques Audiard. Et il y a aussi les mots dans cet article de Frédéric Moreau, la plume d'Isabelle Huppert ou de Christine Scott Thomas. C'est un exercice d'écriture très codifié. Il ne faut heurter personne, dire que Cannes est une bulle fantastique et que le cinéma est exceptionnel. Ne heurter personne et entretenir coûte que coûte la magie d'un festival quelque peu bousculé par des exigences économiques et une grogne grandissante du secteur, toutes professions confondues. Cette promesse-là est tenue, ça mériterait presque cette année plus que d'habitude un prix d'interprétation générale.
Merci Émilie Chaudet, c'est riche tout ça. Je crois que c'est Vincent Dedienne, non, qui fait les discours de Laurent Lafitte cette année.
Qui l'aide, oui, c'est ça.
Voilà, donc
ils répètent ensemble apparemment.
Bon, très bien. Alors Nicolas Sarkozy, on aurait dû lui dire de prendre un pseudo, Paul Bismuth par exemple, pour les scénarios, ça aurait été plus simple, Antoine, non?
Oui, mais on aurait peut-être eu quelqu'un tellement calculateur, il doit certainement bien travailler les intrigues. En passant, Jacques Kirchner, qui disait avoir souffert de mettre le nom de Sarkozy à l'époque, n'a pas eu, autant que je sache, à souffrir de la période Sarkozy président.
Oui, bon, à bon entendeur, c'est ça. Pour le reste, bon, ben voilà, le blues cannois, vous l'avez eu avant le départ pour Cannes. On se disait hier au bureau, on va se dire les choses, Antoine Guillaume, que vous sentiez fatigué chaque année davantage avant de partir pour Cannes. Et je vous disais, cette année, j'ai l'impression, enfin, on se tutoie donc, mais je vous disais, parce qu'on est à l'antenne, que vous aviez la tête quand vous reveniez il y a 10 ans avant de partir.
C'est ça, enfin, voilà,
c'est plus du tout.
C'est un marqueur terrifiant. Alors, comme ça doit faire 27 ans que je vais à Cannes, je pense que je vais finir par mourir là-bas. Non, le blues, on l'a généralement au milieu, selon les années. C'est-à-dire que c'est un vrai marqueur de la qualité d'une édition. Si au milieu du festival, on a ce sentiment de vacuité absolue, pire que dans le film de Woody Allen, et qu'on et qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait là.
Oui, ça c'est pas bon signe.
C'est un très mauvais marqueur. Après, on est toujours ravis d'y aller parce qu'on espère. On espère beaucoup découvrir les films les plus importants de l'année. Et cette année, sur le papier, ça a l'air plutôt excitant.
Ouais, pour moi, il y a plutôt une période d'adaptation. C'est plutôt les premiers jours qui sont durs parce que c'est quand même une bulle. Émilie Barnett, ça fait 27 ans aussi que vous allez à Cannes.
Bah, ça fait pas loin, figurez-vous. Je suis pas 11e année cette année, ce qui est quand même pas mal.
Ouais.
Honorable, n'est-ce pas, comme score. Il faut quand même rappeler aux éditeurs que les premières projections ont lieu à 8h15 chaque matin.
30,
et qu'il faut arriver une heure avant pour les accrédités bleus.
C'est-à-dire ceux qui ont des accréditations, qui ne passent pas les premiers, on va dire. Ouais.
Ça fait des réveils.
Ça veut dire qu'il ne faut pas sortir le soir, Émilie, c'est tout.
Pas tard,
très simple.
Très raisonnable.
Bah voilà. Oui, on va à Cannes pour voir des films. Pour faire la fête, Antoine.
Non, mais je voudrais quand même réagir à cette question des télévisions à Cannes, parce que Gérard Depardieu a quand même, avec tout le respect que je lui dois, un énorme TGV de retard, parce que quand il dit que depuis l'arrivée de Thierry Frémaux et Pierre Lescure, les télés ont envahi Cannes, on entend le discours qu'on entendait il y a 10-20 ans, quand Canal+ a pris le pouvoir à Cannes. Donc cette année, Canal+ se retire de cette présence massive qu'il avait à Cannes, qu'on puisse sortir ça. Alors effectivement, on est un moment de bascule là, qui est très très intéressant en ce moment, parce que les cinéastes et producteurs qui râlaient auprès de France Télévisions parce que leurs films n'étaient pas exposés, les films restent financés par France Télévisions. Mais on est dans ce moment complètement fou où un tiers des 234 films produits l'an dernier, ça fait quand même en moyenne 4,5 films par semaine qui devraient sortir en salle, sont financés, vous l'avez dit, pour un tiers par la télévision. Et on a suffisamment râlé, nous, en tant que critiques, en disant que ces films qui ne semblent pas faits pour la salle, qui sont formatés pour la télévision, qui obéissent à des structures de téléfilms quasiment, y compris dans la manière de filmer. Si maintenant les chaînes de télévision se retirent comme Canal+ le menace, parce que ce que vous ne disiez pas, c'est qu'un des scénarios catastrophes possibles, c'est que Canal+ sépare l'entité sport de l'entité cinéma, et à ce moment-là, il ne fera pas le même chiffre d'affaires, et donc, comme son investissement dans le cinéma est indexé sur son chiffre d'affaires, il ne mettra pas le même argent dedans. Il risque de se passer des choses, beaucoup de dégâts, mais peut-être esthétiquement des bienfaits.
Bon. Voilà, on en reste là pour l'instant sur cette revue de presse et on verra bien ce que donnera ce festival. Vous présenterez mardi prochain, sans moi, Antoine Guillot, une dispute à Cannes avec des correspondants étrangers comme nous le faisons chaque année. Mais il y a d'autres films qui sortent, voilà, il faut se dépêcher avant l'invasion cannoise. Alors peut-être d'ailleurs commencer avec vous, Antoine, parce que vous rattrapez un film sorti la semaine dernière, c'est Red Amnesia de Wong Xiaoshai. Il est sorti mercredi dernier.
Il est sorti mercredi dernier. Wang Xiaoshuai, c'est un cinéaste qui travaille en Chine toujours un peu la même question, qui sont les dégâts ou les traces qu'il y a encore aujourd'hui de ce dont la génération d'avant a souffert, c'est-à-dire le maoïsme et la révolution culturelle. Alors là, pour ce nouveau film sorti la semaine dernière, Red Amnesia, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, c'est Amnésie Rouge, donc il est question, effectivement, n'est-ce pas ? Je parle même le chinois quand c'est écrit comme ça. Il est question du passé, mais de manière très, très étrange et originale pour Wang Xiaoshuai, parce que ça commence comme une histoire de famille, c'est-à-dire vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vous-même une mère un peu envahissante qui n'a pas trop supporté que vous quittiez le foyer, qui vient régulièrement faire le dîner chez vous vous n'en avez pas du tout besoin. Oui, vous avez mis de la distance. Ouais. Et puis qui perd un peu la tête parce qu'elle est malade, parce qu'elle est vieille. Donc quand elle commence à vous dire que quelqu'un la harcèle au téléphone, vous la prenez pas trop au sérieux. Quand elle vous dit qu'elle voit une présence inquiétante rôder autour de chez elle, vous la prenez pas plus au sérieux. Puis quand il commence à y avoir des assassinats et des meurtres autour d'elle, là vous commencez à suspecter qu'il se passe quelque chose. Et quand elle vous explique aussi qu'elle voit son mari, qu'elle lui parle régulièrement, là vous dites c'est vraiment foutu, elle perd la boule. Donc vous êtes dans un film qui commence à la fois dans le thriller et dans le film de fantômes. C'est très curieux, monté de façon très très chaotique, il y a un côté puzzle auquel on comprend pas forcément grand chose au début, et puis ça va nous entraîner effectivement là vers un passé, vous verrez vous-même en allant voir le film de quoi il s'agit, mais qui explique comment le succès aujourd'hui économique de la Chine, de cette jeune bourgeoisie qui a l'impression qu'elle est complètement hors sol et qu'il ne s'est rien passé historiquement avant, repose sur un certain nombre de vilainies et de monstruosités politiques, et qui sont les fantômes cachés comme ça que la Chine essaye de dissimuler derrière un rideau de velours rouge. Donc c'est vraiment un film assez passionnant sur ce qu'il dit, et formellement parlant, très intriguant.
Bon, voilà, il faut rattraper Red Amnesia de Wang Xiaoshuai qui est sorti la semaine dernière, parce que là les sorties vont s'accumuler. Woody Allen commence, mais évidemment au fur et à mesure de la semaine, nous allons voir Almodovar, Bruno Dumont, enfin les films de Cannes commencent à sortir, et puis il y a quand même Captain America Civil War qui occupe pas mal d'écrans. Ouais. Quoi, vous avez aimé ?
Oui.
Mais moi aussi ?
Non, j'ai rien compris. Vraiment,
c'est vrai.
Ah, l'intrigue est d'une complexité folle. C'est...
Ah bon ? Moi, j'avais pas vu les précédents, et pourtant, ça m'a pas semblé. Bon, vous étiez pas dessus. Je crois que vous étiez occupé par autre chose. Non. Bon, puis il y a quand même Scarlett Johansson, puisqu'on parlait d'elle, qui est quand même un caméléon extraordinaire, parce qu'elle s'adapte à tout type de cinéma. Elle est quand même assez impressionnante, Scarlett Johansson. Mais elle ne joue pas dans, sauf erreur, dans Sisters de Jason Moore, qui sort aujourd'hui, dont vous voulez nous parler, Emily Barnett.
Oui, Sisters, donc une comédie décapante.
Je crois que ça veut dire sœur en anglais, non ?
Absolument, pardon, j'ai oublié de traduire, non, c'est vraiment, pardon pour ce manquement.
Je l'ai demandé à Antoine Guillot et puis je me suis lancé.
Donc, une comédie réalisée par Jason Moore, mais pensée, écrite, produite et interprétée par Tina Fey et Amy Poehler, qui sont deux championnes de la nouvelle comédie américaine. Alors, il faut dire, pour un bref historique, elles se sont connues toutes les deux toutes jeunes à Chicago. Elles ont fait leurs premières armes dans le show télévisé ultra populaire de Saturday Night Live. Très exagéré. Elles ont toutes les deux produit leur propre série télévisée. Tina Fey a produit 30 Rock, qui se passait dans le milieu de la télévision, qui était irrésistible. Et puis, elle s'est rendue surtout populaire en faisant une imitation folle de Sarah Palin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sur toutes
ah,
les
c'était
télés,
elle, d'accord,
c'était
oui.
Elle, voilà.
D'accord.
Tandis que l'autre a fait Hillary Clinton. Enfin, elles sont très copines et elles ont eu l'idée donc de coécrire une comédie autour de deux frangines qui sont plongées dans une crise de la quarantaine et qui décident de retourner chez leurs parents pour revivre leur adolescence. Voilà,
c'est un peu drôle d'idée.
Fantaisiste, c'est comme ça. Et alors, on peut imaginer que ça va donner lieu à tout un tas de folies, d'extravagances. Toutes les deux retrouvent leurs vêtements lycéens, donc s'habillent comme dans les années 80.
Ah
elles
ouais,
relisent.
Ça va jusque là.
Elles lisent le journal intime de l'autre. Donc voilà, on réalise qu'il y en a une qui était très engagée pour, je sais pas, la protection des phoques en Islande, alors que l'autre ne pensait qu'aux garçons et tout ça. Donc ça joue aussi sur deux caractères bien trempés, mais très différents. Et surtout, elles vont décider d'organiser une énorme fête qui va devenir un genre de happening géant. Donc c'est The Party de Black Edwards, mais x10, quoi. C'est soirée mousse et voilà. Donc c'est une succession de catastrophes, mais vraiment dingue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit que le film va beaucoup trop loin, mais c'est pas grave, on est quand même très content. Et il faut aller voir ce film vraiment parce que il y a vraiment un... presque un renouveau de la comédie féminine, mais je l'avais dit chez Amy Schumer aussi, ou des créatrices et de shows télévisés comme Lena Dunham. Ces filles-là viennent de Tina Fey et Amy Poehler, et ça fait beaucoup de bien de voir la comédie américaine ainsi rafraîchie.
Bon, et voilà. Vous me donnez envie d'aller voir Sisters aussi. C'est pas tout à fait le même genre de beauté que Red Amnesia, mais Sisters, c'est Jason Moore, sorti également aujourd'hui. Dans quelques minutes, on parlera d'un autre film sorti aujourd'hui sur les écrans, c'est L'Ange Blessé d'Emir Baygazin. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute, qui est danseur, chorégraphe, directeur du musée de la danse. C'est Boris Charmatz, dont vous pouvez retrouver toute l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous?
Boris Charmatz, vous évoquiez les cures de cinéma faites enfants, notamment à l'Institut Lumière.
Les cures de cinéma, c'est vrai que c'était ça.
Non, c'est ça. Hein. Ouais, vous avez parlé de 36 films en une semaine.
Oui, oui,
bon,
oui.
C'est peut-être un record, mais le cinéma, il a occupé, il occupe quelle place dans votre vie?
Bon, au quotidien, je sais pas, hein, je vois quand même beaucoup moins de films qu'avant, on va dire. J'en fais très rarement. Et puis, alors il y a le cinéma et il y a le film. Alors ça discute.
Déjà,
je sais pas s'il faut distinguer aussi. J'aime bien les écrits sur le cinéma. Mm-hmm. J'aime bien le. Il y a des porosités comme ça. Par exemple, je travaille en ce moment avec Ernout Mick, qui est un grand vidéaste. C'est plutôt un artiste visuel, mais on a fait un film ensemble. Mais c'est pas un film de cinéma. Donc, je sais pas. Il y a plein de questions comme ça. De même qu'on présente là à Rennes un programme de films de la troisième scène, c'est des films liés à l'Opéra de Paris qui ont été produits par Dimitri Chamblas qu'on a fait un premier duo de danse il y a très 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 longtemps, et puis il est devenu producteur de films, voilà, exactement, il y a très très longtemps, et on présente ces films au Gaumont là à Rennes, et c'est des films liés à l'Opéra de Paris. Alors c'est en cinéma.
Beaucoup à la danse. Hein.
Voilà, beaucoup. Il y a beaucoup, quand même... Bah, il y a un film de Mathieu Amalric.
Oui, sur Barbara Hannigan, voilà, qui est magnifique.
Et moi, je trouve le film... Et, quand même, il s'est filmé, ça veut rien dire. Mais quand même, on la voit en train de s'échauffer. On dirait que c'est filmé un peu à hauteur du ventre. Entre guillemets, elle ressemble à rien, la respiration. C'est à la fois très, presque impudique.
Animal.
Ouais, c'est très étrange. Tout le début. Parce que finalement, elle finit par chanter.
Un peu.
Et c'est très beau, c'est très bien.
C'est au piano, c'est pas mal.
Non, mais c'est super. Mais quelque part, ce que je préfère, c'est encore cette zone où on sait pas bien ce qu'elle fait. On pourrait même pas dire qu'elle s'échauffe, quoi. On peut même pas dire qu'elle, on sait pas trop.
Elle joue. C'est une grande comédienne.
Voilà, c'est un endroit de trouble et filmé à cet endroit-là aussi. Alors, c'est du cinéma, là, c'est Mathieu Amalric, mais c'est des films de la troisième scène, c'est entre l'Opéra de Paris, le film, et puis ça peut être Eric Reinhardt qui réalise un film, ou William Forsythe, ou quelqu'un d'autre. Donc, j'aime assez cette porosité, et en même temps, voilà, il y a des grands cinéastes, je sais pas, Tsai Ming-liang, il a beau faire des installations, il fait plein de choses, mais en tant que spectateur de cinéma, voilà, on voit, c'est la saveur de la pastèque, je crois.
Goût de la pastèque?
J'ai vu trois fois, et bon, pour le coup, c'est du cinéma, et ça fait du bien d'être juste, c'est pas sur écran internet, c'est pas sur mon iPhone, c'est dans une salle obscure, et avec un grand C, quoi.
Et adolescent, Boris Charmatz, vous aviez des idoles de cinéma, alors idoles masculines ou féminines d'ailleurs, ou enfin, il y a peut-être des icônes pour vous?
Plutôt des réalisateurs, c'est vrai, Tarkovsky, Pasolini. Après, quelque part, peut-être, je suis resté bloqué là-dessus au lieu de m'actualiser plus. Du coup, j'ai l'impression de connaître mieux. On en parlait hier. Marcel Carné ou Lubitsch, que les réalisateurs d'aujourd'hui, on va dire. Donc, des fois, je trouve ça aussi dommage. C'est peut-être simplement l'emploi du temps qui génère ça. Peut-être que je connais mieux aussi le travail de vidéastes, du coup des gens qui font des films, qui sont dans le monde de l'art contemporain, et peut-être que il y a des films de Pierre Huyghe, il y a des films de Ernout Mick dont je parlais. Ce sont des vidéastes, mais évidemment je les considère aussi comme des chorégraphes. C'est presque les chorégraphes de notre temps, alors qu'ils sont des artistes visuels ou des réalisateurs de films, on va dire. Mais moi je les regarde souvent avec les lunettes de la chorégraphie, parce qu'en fait souvent ils nous donnent des leçons de comment on utilise les corps ou comment un peu comme comme enfant, enfin adolescent, justement, j'ai découvert Fassbinder et j'ai l'impression que je revoyais Pina Bausch autrement, parce que j'ai l'impression que Pina Bausch, c'était, elle était toute seule, elle était, il y avait personne autour, elle avait tout fabriqué. Puis dans certains films de Fassbinder, tout d'un coup, ah mais on voyait ce type de corps, peut-être ce type de théâtre, je dirais, ce type de cette odeur de ces années 70, enfin quelque chose qui me disait ah mais elle est peut-être pas toute seule. Et Fassbinder, il a en un sens aussi rien à voir avec Pina Bausch, mais quand même, il y a des passerelles, il y a des odeurs qui circulent d'un genre à l'autre, même si les disciplines existent. Hein, voilà.
Mais alors, filmer la danse, vous l'avez évoqué, Maurice Charmatz, à propos de la troisième scène, mais parler de Pina Bausch, il y a eu les rêves dansants, et puis le film de Wim Wenders, il y a aussi Les Chaussons Rouges de Michael Powell, il y a Black Swan plus récemment. Ouais. Vous les regardez comment? Alors, ce sont des films là, que je viens de citer comme ça, de tête très différents. Est-ce qu'il y a un goût quand même particulier pour vous?
Ouais, alors, souvent, c'est compliqué, parce que les films de fiction, hein, mais qui abordent vraiment la danse, bon, Black Swan, ou même il y a une série qui s'appelle Flesh and Bone, je ne sais pas si vous connaissez, où c'est vraiment. C'est drôle parce que c'est des danseurs qui jouent dans la série, donc c'est entre guillemets des vrais danseurs, c'est pas des comédiens qui sont doublés. Ah, oui. Et en même temps, le monde de la danse tel qu'il est dépeint dans l'imaginaire un peu collectif, on se dit non mais bon, c'est comme Black Swan, voilà, c'est pas évident comme ça.
Mais quand c'est Frédéric Wiseman qui va au Ballet de l'Opéra de Paris,
quand il y a des biais, c'est comme voilà, c'est pour ça que je parlais de certains vidéastes finalement. Ernout Mick, il n'est pas chorégraphe. Dans ses films, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais citer. Il y a un des films, on voit des gens en train de manger. Ensuite, ils répètent des gestes. On ne comprend pas ce que c'est. On a l'impression que c'est des policiers qui arrêtent des migrants. Mais c'est au ralenti. On ne sait pas ce que c'est. Et là, tout d'un coup, moi, ça parle au chorégraphe que je suis, en fait. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont représenté ou ils ont filmé la danse. Mais il y a un endroit du travail des corps où on ne sait pas bien qui fait quoi. Qui est danseur, qui est acteur, qui a répété, qui improvise, quelles ont été les consignes, quel est le contexte. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression d'être vraiment face à de la chorégraphie. Et du coup, c'est pas forcément dans les films de danse. Enfin, j'ai aimé le film sur l'opéra de Wiseman. Par contre, il y a aussi peut-être des fois, moi, il me suffit d'une minute où Valeska Gerth, il y a très, très, très longtemps, est filmée. Et une minute muette où elle campe un caractère, un personnage et voilà, moi je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de films sur la danse pour une minute de Valeska Gerth.
Nous poursuivons cette dispute consacrée exceptionnellement ce mercredi soir au cinéma avec L'Ange blessé du Kazakh Emir Baygazin, un film qui a été présenté à Berlin, là où le premier film du cinéaste, Le Son d'Harmonie, avait reçu l'Ours d'Argent, c'était en 2013. L'Ange blessé, c'est donc le second volet d'une trilogie que le cinéaste consacre à l'adolescence.
Otuzluk erkek. Erkek emez.
Işkavını sattım. Akşası mı ne?
Yaraysın caras. Sen olmasan barın konak götürür.
Sen barlık jaratılıstanı turalı paragrafları kaytılap şuğun gerek.
Menin hirurg bolğum keledi. Dargerge ağaş kerek emez.
Yer azamat şarvaşılıktan bärin bilüü gerek.
Dal ursan qarsılasın köz jarq etip jarğı sönüp qaladı.
Өзің білесің, адамдар алмаймын.
Как сюда пробрался?
Старик рассказал.
Медь эта фигня. Сейчас мы тебе покажем. Матер не забудешь.
La suite va être chantée par Antoine Guillot.
Mais malheureusement, comme le personnage du film, il y a un moment où on mue, donc je n'ai plus exactement la voix de mes 13 ans et je me garderai bien de casser vos oreilles. J'avais été très frappé déjà par le premier film de d'Emir Magazine, Le son d'harmonie, qui était sorti il y a 2 ans. Devenu du Kazakhstan, donc comme d'autres très bons cinéastes, comme Darejan Umirbaev en premier lieu, représentatif de cette branche étrange de la Russie post-soviétique qui est le club des Bressoniens d'Asie centrale, d'une certaine manière. Donc cadre absolument hiératique, personnage quasiment inexpressif, en tout cas au visage très énigmatique, et sens de l'ellipse, du hors-champ. Enfin, j'avais déjà été très frappé pour ce film qui évoquait déjà l'histoire d'un jeune adolescent en milieu hostile, bon élève dans sa classe, soumis aux raquettes et au tabassage de ses copains, enfin camarades de classe plutôt, et qui se vengeait de manière assez radicale quand il ne passait pas son temps à torturer des cafards dans sa chambre. Donc on était déjà dans quelque chose d'assez sombre. Ce second film ne va pas déroger au programme. On a donc 4 sortes de contes moraux mettant en jeu des adolescents, chacun confronté à un choix moral qui est généralement le pire à faire. Et ils le font, bon, ou pas. C'est selon son appréciation. On est à un moment particulier du Kazakhstan, on est au tout début des années 90, c'est-à-dire le moment où l'URSS est en train d'éclater en morceaux, que c'est la crise totale, coupure d'électricité tous les soirs pour économiser de l'argent, donc belle métaphore, le soir tombe sur ce pays, filmé comme un paysage post-apocalyptique. On est dans un petit village où il y a eu des usines, mais enfin il y a longtemps qu'elles sont tombées en morceaux, et ces jeunes gens sont tous, d'une manière ou d'une autre, livrés à eux-mêmes et devant faire ces choix avec ce rythme donc, dont on aura, d'une certaine façon, le sens est donné à la fin, puisque le titre du chapitre arrive après ce qu'on a vu, donc 4 chapitres, destin, chute, avidité, péché, le tout rythmé par des images dont on apprend après qu'elles viennent d'une fresque que je ne connaissais pas, d'Hugo Simberg, qui est dans la cathédrale de Tampere en Finlande. Ça donne envie d'aller la voir, cette cathédrale.
Non, j'aime
assez, moi, cette peinture, c'est un symboliste comme ça, où on voit des jeunes hommes nus porter un arbre de vie. On comprendra que c'est un arbre de vie derrière. Alors, on pourrait trouver tout cela très formaliste et extrêmement programmatique. Moi, ce qui m'étonne assez dans ce film, c'est que depuis la chronique naturaliste, justement, de l'enfer que c'est d'être le fils d'un père qui revient de prison, d'être promis un brillant avenir, mais justement la voix mue, donc on ne peut plus devenir chanteur et on va accomplir ce que vos camarades veulent que vous fassiez, etc. Le film verse progressivement dans une sorte de fantastique très étrange, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie souterraine avec des êtres assez étranges qui sur le papier sont évadés d'un asile de fous pour enfants, mais sont des sortes de personnages de lutins, enfin de nains des montagnes, très 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 curieux. Il y a un personnage qui va être persuadé qu'un arbre pousse en lui, et tout d'un coup on atteint, dans cette métaphore évidente de ce qu'a été le basculement pour les pays ex-membres de l'URSS au moment où ils ont dû se débrouiller tout seuls et où beaucoup ont versé, et notamment ces pays-là, dans le gangstérisme, dans la corruption généralisée, enfin dans l'horreur totale, d'en faire quelque chose qui tire vers le compte, voilà. Et moi, c'est ce basculement vers le fantastique qui m'a beaucoup touché.
Alors, Émilie Barnett, vous regardez un peu circonspecte en prenant des notes, Émilie.
Non, je prenais des notes. Non, la présentation d'Antoine est très complète, si complète que c'est pas évident de s'y faufiler, mais moi je dirais que ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Emir Baygazan, qui est un jeune cinéaste que je ne connaissais pas, dont je n'ai pas eu le premier film.
C'est que le deuxième film, maintenant.
34 ans. Réussit une chose, effectivement, c'est qu'il arrive parfaitement à traduire le malaise d'une société post-soviétique en névrose enfantine. Et ça, c'est extrêmement intelligemment fait. Et moi, j'ai été touchée par les trajectoires de ces petits garçons, notamment le second qui a ce don, effectivement, il interprète des chants religieux, et puis il perd son don, effectivement, par ce phénomène de mue, et dès lors il bascule dans le mal, en fait, et ces 4 contes moraux, ils racontent le basculement de ces enfants dans, alors je ne sais pas si c'est du bien ou mal, mais dans une forme de neutralité existentielle, métaphysique. Et au fond, c'est ça que raconte le film, c'est la naissance d'une conscience à chaque fois. Et c'est pas totalement des adolescents, c'est des enfants en fait, encore au moment où il les prend, puisqu'ils ont à peine 13 ans. Et c'est ce moment très décisif de l'existence où tout d'un coup, une conscience naît à elle-même et un être devient réellement existant au moment où il décide de prendre position. Enfin, il fait simplement l'expérience du bien et du mal et il découvre le mal. Et là, tous ces enfants font en quelque sorte effectivement le mauvais choix. L'un parce qu'il ne supporte pas la perte de ce don, l'autre parce que simplement un autre parce qu'il va vivre dans une misère sociale telle qu'il n'a pas le choix. Il y a un très très beau conte qui est moi mon préféré qui met en scène un jeune garçon qui fait du trafic de métaux. Donc il part dans des tunnels. Donc là, on quitte la steppe, on quitte les déchetteries et on plonge dans un monde souterrain très inquiétant. Et là, donc il va recueillir des métaux. Je ne raconte rien. Là, c'est vraiment l'exposition et qu'il va revendre en fait. Donc c'est aussi le marché noir et tout ça. Et Antoine a raison de dire qu'effectivement très vite il y a cette dimension, sinon fantastique, en tout cas très inquiétante. On va croiser la route de jeunes garçons, jeunes gens handicapés aussi. Donc il y a aussi toute la folie d'un pays qui est incarné à ce moment-là. Après, moi, j'aurais une mini réserve simplement sur la mise en scène qui est effectivement très puissante, qui fait penser
épuisante
aussi, qui peut faire penser aussi au Turc Nuri Bilge Ceylan, l'auteur des Climats et de j'ai oublié le nom de son dernier film.
Winter Sleep.
Donc des plans très fixes, montage très lent, très froid, très clinique. C'est qu'il me semble qu'il parfois il est très loin d'être à la hauteur de ses enfants. Il les surplombe un tout petit peu par cette mise en scène comme ça, extrêmement pesante, extrêmement symboliste. Et voilà, parfois je me dis que c'est un poids peut-être un peu lourd pour les frêles épaules de ces petits garçons.
Oui, alors c'est vrai que Emir Magazine, il s'affirme, on attend de voir quand même le troisième volet, puisqu'il a dit que c'était une trilogie sur l'adolescence. Alors une fois qu'on a dépassé le côté un peu Jeanne Green au Kazakhstan, c'est vrai que sur certains interprètes, il y a quand même cette neutralité, même si c'est dans une langue qu'on ne maîtrise pas, on voit qu'il y a un jeu très très à plat, très très neutre, mais pas tout le temps. Il y a quand même aussi tout ce qui est au niveau de la photo, on est aussi vraiment, mais parce que c'est la coupure d'électricité qui fait qu'on est vraiment dans les tableaux de Georges de Latour constamment, et que vraiment il en joue absolument de cette picturalité.
C'est le chef-op de Bruno Dumont qui signe la photographie de ce film, Yves Cap, le café Holly Motors aussi.
Oui, ben voilà, c'est une très très belle photographie, évidemment. Et puis, il y a toutes ces... On a parlé de ces enfants, mais il y a les mères, il y a les pères, il y a des relations très particulières. Parce que on a presque l'impression dans la vie quotidienne que ce sont des enfants qui uniques avec une mère, mais les figures de pères sont quand même là et elles jouent des rôles selon les séquences différentes, mais toujours très, voilà, en opposition. C'est une sorte d'irruption comme ça. Le père apparaît, surgit quand vraiment il s'agit d'essayer de remettre l'enfant dans le bon chemin d'une certaine façon. Donc il y a vraiment des liens. Je trouve que les figures de mères dans ce film sont absolument magnifiques. C'est vrai que la seule réserve que j'ai, mais qui n'est pas tout à fait mince, c'est que il me semble que le quatrième segment est pour moi vraiment celui qui me touche le moins, qui est pour moi le moins réussi, parce que cette bascule, alors qui est pas fantastique, parce que là c'est un basculement, on va dire, mental d'un des personnages, pour moi elle est un peu trop lourde, ou un peu trop scénaristiquement
c'est sans doute la plus soviétique d'une certaine manière.
Oui,
c'est la plus allégorique. C'est peut-être pour ça que
et je trouve qu'elle est en décalage.
Je comprends assez, parce que on est passé de la métaphore à l'allégorie tout d'un coup, mais en même temps la manière dont tout cela se resserre et se résout, moi me fascine assez. D'autant qu'il y a une figure, sans doute, qui explique une des logiques du film. Il y a un Rubik's Cube au début, On dit, bah, effectivement, oui, il ne faut pas oublier que Rubik était un Hongrois, hein, donc le marché soviétique a été aussi inondé de Rubik's Cube. Et le film procède aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des motifs, le motif du miroir, de la fenêtre dans la fenêtre, plusieurs choses
mortes,
qui se recombinent et qui se réajustent à la fois. Et j'aime assez, moi, le fait d'avoir fait sa dimension, ce côté chapitre.
Oui, mais moi aussi.
Comme ça, dont on pourrait dire, bon, voilà, c'est juste quatre histoires qui, en même temps, à force de se combiner, forment une figure commune qui est assez, oui, assez passionnante. Encore une fois, je pense comme vous que Emir Baygazin est un cinéaste en devenir qui fera un jour sa grande œuvre, mais je suis assez impressionné de ce qu'il fait à cet âge-là et après deux films.
Parce qu'on peut effectivement voir ces quatre jeunes garçons comme le même, enfin, parce qu'il y a aussi, ils jouent du fait qu'ils ont leur bureau dans l'angle de la chambre avec la bougie, enfin, il y a le même cadre pour les quatre personnages, donc on peut très bien s'imaginer que voilà, c'est une sorte de démultiplication du même. Et c'est vrai que ce dont on ne dira rien sur la dernière séquence, il y a vraiment quelque chose de très prenant. Et puis tout d'un coup, effectivement, quand des pièces s'assemblent, c'est ça qui est beau aussi, mais scénaristiquement, là, pour le coup, très réussi, parce que c'est pas lourd, c'est pas pour faire son malin, il y a quelque chose qui tout d'un coup se réagence, se combine et donne une vision. Alors certes, ça ne donne pas, c'est pas franchement, j'imagine, sponsorisé par l'Office du tourisme du Kazakhstan, parce que la réalité des petits villages, c'est quand même assez rude, mais même des un peu plus grandes villes. Mais c'est en même temps d'une très grande beauté, ces paysages post-industriels.
C'est un témoignage historique, pourront-ils dire, puisque ça s'est déroulé il y a 25 ans.
Absolument, c'est pas aujourd'hui.
Et donc le pays s'est développé autrement, pas forcément pour le meilleur.
Il s'est relevé depuis, mais c'est vrai qu'on a des travelling sur des ruines post-industrielles absolument magnifiques aussi.
On est quasiment dans Mad Max, par moment.
Oui, c'est vrai. Vous voulez un dernier mot, Émilie Barnett ?
Non, mais oui, c'est fou, faut découvrir, c'est le film d'un cinéaste précoce qui met, je pense, aussi des enfants, met en scène des enfants un peu monstrueux aussi, un peu précoce. C'est pas des petits garçons ordinaires. C'est aussi un film qui parle de précocité dans tout ce qu'elle a de fascinant et monstrueux aussi.
Et c'est très rare quand même au cinéma.
Et voilà, et lui est clairement un cinéaste précoce, quoi, c'est sûr.
Bon, c'est notre conseil hors Cannes cette semaine, ça vient de Berlin. C'est L'ange blessé d'Emir Baygazin, sorti aujourd'hui sur les écrans.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et on conclut cette émission avec le jeu de la dispute et on commence par un retour sur le jeu d'hier soir. C'est avec Hugo Boursier que je fais cette séquence du jeu. Hugo, qu'est-ce qu'on gagnait hier ?
Vous avez gagné des invitations pour le film L'Ange blessé d'Emir Baygazin.
Comme ça tombe bien.
Qui sortait aujourd'hui en salle.
La question ?
Et je vous demandais à quel peintre le titre de ce film renvoyait-il ? Et la réponse, c'était le peintre finlandais, non pas Hugo Boursier, mais Hugo Simberg, l'auteur de L'Ange blessé.
Alors, ce soir, on gagne, je l'ai dit tout à l'heure, des invitations pour un spectacle dont on a parlé lundi soir, chapitre de la chute de la saga des Lehman Brothers de Stefano Massini. C'est une mise en scène d'Arnaud Meunier en ce moment au Théâtre du Rond-Point. Des places à gagner pour samedi soir, 14 mai, à 19h. Quelle est la question ?
En quelle année les trois frères Lehman ont-ils débarqué en Amérique ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeur fc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Émilie Barnett, Émilie Chaudet, Antoine Guillot et Hugo Boursier d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Leduo qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. La prise de son assurée ce soir par Pierrick Charles, la réalisation Daniel Finot. On vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique, en compagnie de Marie Audrou et Emmanuel Giuliani, à notre affiche L'Orfeo de Claudio Monteverdi, dirigé par Geoffroy Jourdain, mise en scène Julie Berès, c'est à l'Opéra Bastille, et Das Liebesverbot de Richard Wagner, direction musicale Constantin Trinks, mise en scène Mariam Clément à l'Opéra National du Rhin. Nous parlerons aussi du CD Dedication de Nicolas Angelich chez Warner Classics. Nous retrouverons Émilie Chaudet pour la revue de presse culturelle de la dispute, les choix du du chorégraphe Boris Charmatz, invité de la dispute. Il y aura un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, hors champ par Laure Adler. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.